Bah, il n'y a pas de surprise, hein. On va reprendre la saga d'été bras de fer avec Dieu. Alors avant de plonger dans l'histoire de Jonas, je vais vous raconter un petit témoignage. Un petit témoignage, un petit souvenir de mon adolescence. Alors ce n'était pas du tout un bras de fer avec un homme, hélas, ni avec Dieu. Mais c'était avec un jeu vidéo. Et ce jeu a vraiment marqué ma vie, mon adolescence. Pour deux raisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, déjà, c'est parce qu'à cause de son nom, l'appellation de ce jeu. Et deuxièmement, c'est parce qu'il m'a beaucoup stressé à chaque partie. Donc ça m'a assez marqué. Je pense que vous connaissez le personnage si je vous le montre ici. Alors, ce personnage s'appelle, s'il veut passer le PowerPoint, Donkey Kong. Voilà, il m'a marqué. Je lui dis, mais qu'est-ce qui est l'idée de mettre un prénom qui a le mien aussi, quoi. Mais bon, un singe, un gorille en plus. Bon, bref. Mais en tout cas, le jeu était vraiment plaisant, stressant aussi. Je pense que peut-être vous avez déjà vécu, expérimenté ce jeu. C'est un jeu qui date vraiment des années 2000, hein, c'est des vieux jeux. En fait, le principe est très simple de ce jeu. En fait, le gorille, il doit s'agripper à des plateformes, à éviter des tonneaux qui roulent sur lui et des obstacles afin de sauver la princesse de Mario. Alors, finalement, quand on joue à ce jeu, on voit que malgré tout, hein, tous les efforts que nous pouvons donner avec Donkey Kong à vouloir sauver la princesse, eh ben non, il se fait écraser, malheureusement, il se prend un tonneau. Eh oui, et il tombe. Alors, que se passe-t-il pour lui et pour nous? Eh ben, c'est très simple. Pour nous, c'est un, si le PowerPoint, il veut y aller. Alors, ah, il a du mal à passer. Voilà. Voilà. C'est un retour à la case départ pour nous, pour celui qui, en tout cas, qui est sur la commande, mais aussi pour Donkey Kong. Ah, c'est vraiment pas cool, hein. Moi, c'était frustrant à chaque fois, à chaque fois. Que je donnais toute mon énergie. J'esquivais, que je m'accrochais et tout, pour à la fin me prendre un tonneau et recommencer tout à zéro. Ah, c'était pénible. Ah, c'était vrai pénible. Et à un moment donné, je me dis, mais quel échec total, quoi. Je suis pas fort, je suis pas bon. Mais en réalité, si on pense vraiment, à chaque fois que nous recommençons, est-ce que c'est vraiment un échec? Non, ce n'est pas un échec. C'est plutôt une nouvelle chance. L'occasion de recommencer à chaque fois la partie pour réajuster notre stratégie, pour progresser, pour aller un peu plus loin. Et à la fin, résultat de la course, c'est que j'ai pu sauver la princesse. Et oui, avec Jonas, ici, c'est exactement ce qui se passe. Il avait fui Jonas. Il avait pris la direction opposée de l'appel de Dieu. Mais Dieu, dans sa grande bonté, l'a ramené, lui aussi, à la case départ. Pas pour le décourager, hein. Pas comme un signe de punition, mais pour lui offrir lui aussi un nouveau départ. Et parfois Dieu dans nos vies fait pareil avec nous. Il nous ramène à la case départ. Nous devons recommencer pour nous donner une seconde chance, pour nous aider à apprendre à réajuster notre vie spirituelle avec lui et pour repartir pour un meilleur départ. Alors nous allons lire notre passage. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et allait à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville, il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soit couvert de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent à toutes leurs mauvaises conduites et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait, Dieu ne s'arrivera pas et ne reviendra pas sur sa décision s'il ne renoncera pas à son ardente colère de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'il faisait et il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. L'idée centrale de ce texte, pour vous résumer, avec Dieu, tout revirement est une grâce qui ouvre un nouveau départ. Avec Dieu, tout revirement est une grâce qui ouvre un nouveau départ. Alors ici, au début du chapitre 3, l'histoire reprend de plus belle là où elle devait commencer. Le chapitre 3 fait clairement écho au chapitre 1. Même appel, même mission, mais cette fois-ci, le plan de Dieu va se réaliser. Au chapitre 2, nous avons vu que la grande traversée de Jonas de l'est à l'ouest, de la surface aux abîmes, n'était finalement que les prémices du grand plan de sauvetage et de restauration de Dieu. Même au séjour des morts, la grâce de Dieu s'est manifestée pour Jonas, sous la forme inattendue d'une bouée naturelle de sauvetage de Dieu, le fameux grand poisson. Et c'est dans le ventre de ce grand poisson que Jonas a enfin capitulé. Il s'est repenti devant la souveraineté de Dieu en lui promettant des actes de reconnaissance. Ainsi, le chapitre 3 s'ouvre comme une nouvelle page par le revirement de Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville !» Et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Ici, Dieu remet son prophète en marche. Une seconde fois. Oui, une seconde fois. Il lui ordonne de prendre la route pour aller à Ninive. À première vue, cet appel ressemble presque à mot par mot à celui du chapitre 1. Mais deux différences significatives méritent notre attention. Deux petites différences. Déjà, nous avons premièrement l'expression « une deuxième fois ». Une deuxième fois ici, au verset 1. La deuxième fois remplace la mention du Père, le fils d'Amittai. Au premier appel, le texte nous situe en fait dans le contexte pour nous dire quel est le contexte historique de Jonas. Le fils d'Amittai signifie cela. Mais ici, ses origines ne comptent plus. Ce n'est pas son passé qui le qualifie, mais le fait que Dieu, là, le remet en route. Deuxièmement aussi, la mission a été reformulée. Au chapitre 1, Jonas devait crier contre Ninive parce que la méchanceté de Dieu était montée à lui. Il devait crier contre Ninive. Mais là, regardez, au chapitre 3, il doit simplement proclamer ce que Dieu ordonne. Donc, ce n'est plus exactement la même chose. La nuance est essentielle ici. Jonas n'a pas été envoyé pour inventer son message ou pour déverser sa colère. Non, mais pour être la bouche fidèle de Dieu. Et c'est d'ailleurs une des qualités fondamentales et premières des prophètes dans l'Ancien Testament. Et c'est aussi celle des ambassadeurs de Christ dans le Nouveau Testament. Oui, parler fidèlement de Dieu et de sa parole est une qualité première. C'est ce que l'apôtre Paul nous affirme dans sa deuxième lettre à 2 Corinthiens, au verset 5 à 20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, Paul nous dit encore, nous refusons les cachotteries honteuses, nous ne nous conduisons pas avec fourberie, et nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. C'est important. Et de plus, un détail frappant, c'est que dans ce verset, au verset 2, on voit que Ninive, la méchanceté de Ninive n'est pas du tout mentionnée. Donc, ce qui est important ici, c'est que tout le poids repose sur ce que Dieu va mettre dans la parole de Jonas, ce qu'il va proclamer. Et un détail au verset 3 nous montre que c'est Jonas qui lui change d'attitude. Là, c'est un revirement, oui, par rapport à son attitude qu'il avait au chapitre 1. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville, il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Alors, en lisant cette réaction de Jonas, on ne peut que constater une chose, c'est qu'au chapitre précédent, le chapitre 2, Dieu a vraiment changé, a vraiment fait un travail profond dans le cœur de son prophète. La repentance de Jonas ne se limitait pas qu'à simplement à des paroles, à des prières. Maintenant, là, elle se traduit par des actions concrètes, un changement d'attitude, un revirement complet et qui est visible. Celui qui refusait catégoriquement d'obéir, aujourd'hui, il est prêt à se lever et aller et obéir. Il passe de la désobéissance totale à une obéissance radicale, immédiate. C'est une confirmation ici que nous avons. Il est important de bien comprendre qu'un simple regret de nos actes dans nos vies, ou même un profond remords qu'on peut ressentir, ne constitue pas une véritable vraie repentance dans nos vies. Oui, sentir c'est une chose, c'est bon déjà, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce que la repentance ne se limite pas à des émotions, elle n'est pas seulement un sentiment de culpabilité qui nous attriste. La vraie repentance implique toujours un choix, une décision, un engagement sincère du cœur et radical, celle de renoncer au péché commis contre Dieu. Oui, c'est important, commis contre Dieu, et de marcher désormais dans l'obéissance de sa volonté, comme Jonas le fait ici. Alors voici comment le théologien Wayne Grudem définit la vraie repentance. Intéressant. Se repentir, c'est regretter sincèrement son péché, le dénoncer et s'engager de tout cœur à y renoncer pour marcher dans l'obéissance à Christ. Alors il est intéressant de constater que l'auteur aussi ne mentionne pas la difficulté de Jonas, comme dans le chapitre 2. Parce que là, Jonas, il est recraché sur la terre ferme, et il doit aller à Ninive. Et la terre ferme, l'océan n'est pas près de Ninive. Hein. Il y a beaucoup de kilomètres avant d'arriver. 1000 kilomètres au moins. Mais pourquoi l'auteur ne parle pas des difficultés à ce moment-là? Pourtant, un voyage aussi long, en territoire hostile, comme j'appelle, en territoire étranger, ennemi d'Israël, du royaume du Nord. C'est certainement pas une affaire facile. Et pourquoi l'auteur ne nous dit pas plus? Or, Ninive était une immense ville, il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Ninive, rappelons-nous, capitale de l'Empire assyrien, ennemi d'Israël, du royaume du Nord. Ninive était située sur la rive est du Tigre, dans l'actuel nord aujourd'hui de l'Irak. D'après les historiens, cette ville était vraiment immense, d'une périphérie de 100 km environ. D'après les historiens aussi, le palais royal qui se situait au centre de la ville de Ninive était protégé par des forteresses, d'une périphérie aussi de 12 km. La grande ville et la petite forteresse du roi de Ninive. Le texte biblique précise qu'il fallait 3 jours. Oui, 3 jours pour traverser la ville. Mais étonnamment, on voit que Jonas, il n'a pas mis 3 jours, mais simplement 15 jours pour traverser la ville. Le terme Ninive ne s'appliquait pas probablement que à, c'est-à-dire la forteresse, mais à tout son district, Ninive. C'est pas simplement que la petite ville du roi, mais toutes les agglomérations qui l'entouraient aussi. Alors ne parlons-t-il pas aujourd'hui que Genève et ses banlieues représentent la grande Genève aussi, le grand canton de Genève? D'après Wikipédia, hein, j'ai regardé un peu, la grande Genève est une agglomération transfrontalière entre la France et la Suisse, composé de trois principes entités. À savoir qu'il y a le canton de Genève, le district de Nyon et le pôle métropolitain du Genevois français. Tout ça, on peut dire le Grand Genève. Voilà. Le message de Jonas donc se limitait pas simplement à ce qu'il y avait dans la forteresse, c'est-à-dire le palais du roi, mais à tout le peuple. L'Éternel lui aussi lui-même le dit, la grande ville, va à Ninive, la grande ville. Et on pourrait dire aujourd'hui, la Ninive, la grande ville aussi, la grande Ninive. Et la ville comptait beaucoup, beaucoup de centaines et de milliers d'habitants dans cette ville, jusqu'à à peu près 1,5 million, voire 1 million d'habitants. Ninive constituait, comme on le sait, un centre politique, religieux et économique majeur. Et c'est important d'avoir ce contexte-là pour comprendre quelle est la mission intimidante que Dieu a confiée à Jonas. Alors pourquoi l'auteur fait-il silence sur les difficultés que pouvait rencontrer Jonas? Pourquoi? Probablement pour nous enseigner une vérité spirituelle fondamentale. Lorsque nous marchons dans l'obéissance à Dieu, ce qui semblait insurmontable devient facile, insignifiant lorsque Dieu est avec nous. L'auteur voulait précisément mettre le point là-dessus. Quand nous avons Dieu dans notre vie, il n'est pas utile de parler de ça. Quand notre vie s'aligne sur la volonté de Dieu, l'impossible devient possible. L'obéissance ouvre la porte à la grâce de Dieu. Elle transforme nos échecs en nouvelles opportunités et nos montagnes impraticables se changent en montagnes praticables. Et si Jonas a fait l'expérience de ce revirement ici, au chapitre 3, il n'est pas le seul. Nous allons voir aussi un revirement spectaculaire, celui de toute une ville, le revirement de Ninive. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs. Depuis les plus grands jusqu'aux plus petits, le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi, de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs, les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes violents dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. La première chose frappante ici se trouve au verset 4. Ce que Jonas, il fait, comme je disais tout à l'heure, il ne fait que un jour de marche, alors qu'il devait traverser 3 jours s'il devait vraiment proclamer tout le message, la parole de Dieu. Mais il n'a fait que un jour. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas traversé tout Ninive. Pourquoi? Pourquoi cette précision-là, l'auteur nous met ça? Sans doute pour souligner la puissance du message de Dieu. La puissance du message de Dieu. Le message donné à Jonas était simple et radical. Dans 40 jours, Ninive sera détruite, tout simplement. Simple mais radical. Le verbe détruire en hébreu, employé ici, hapak, est intéressant. Il peut signifier détruire, renverser, retourner, transformer. C'est le même mot utilisé pour Sodome et Gomorre dans Genèse 19. Cela veut dire que le message portait en lui une double possibilité, soit une destruction totale de Ninive, soit un retournement radical de Ninive. Alors tout dépendrait de la réaction maintenant du peuple. En effet, les 40 jours représentent alors un ultimatum pour Ninive, un délai de grâce offert pour que Ninive ait le temps de se repentir. Mais un seul jour de proclamation a largement suffi pour retourner les habitants de Ninive, afin d'être bouleversés, de se repentir à Dieu. Cela nous apprend, à nous aujourd'hui, pour nous chrétiens, que la puissance de la parole de Dieu n'a pas besoin de longs discours, de grandes méthodologies, de stratégies sophistiquées. Non, une seule parole venant de Dieu, transmise fidèlement, peut renverser les plus grandes forteresses spirituelles quand nous n'y croyons pas. Cette vérité se vérifie encore aujourd'hui, très simplement. Quand un nouveau croyant vient à la foi, il peut témoigner des fois, il y a des témoignages, des centaines, des milliers de témoignages, parce qu'il a été frappé par un verset, par une parole de la prédication. Il a été frappé. Et il y a eu un revirement total. Oui, c'est vérifiable. Lorsque l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans le cœur, nul besoin d'insister ou de faire de longs forcing ou de coaching, de biblique, comme on dit, une seule parole peut suffire pour convaincre. Voilà la puissance de la parole de Dieu. La foi ne naît pas de nos efforts personnels ou de la qualité du prédicateur, non. L'apôtre Paul nous l'affirme dans Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà l'impact de Ninive. Voilà l'impact qu'a connu la parole de Dieu à Ninive. Elle fut immédiate. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Radical. Oui. Les habitants crurent, c'est-à-dire qu'ils placèrent leur confiance dans le Dieu de Jonas, qu'ils connaissaient que par réputation, parce qu'ils ne connaissaient pas le Dieu de Jonas encore, tout à fait à ce moment-là. Ici, la repentance collective de Ninive est vraiment remarquable encore. Ninive, capitale d'un empire idolâtre, les Assyriens adoraient de nombreuses divinités païennes aussi. Hein. Et voyez le prix qu'ils ont renoncé. Ils avaient des dieux aussi. Un dieu qui était le dieu d'Azur, dieu national, protecteur de l'empire, symbole de puissance militaire et politique. Ils vénéraient aussi Ishtar, déesse de l'amour, déesse de la guerre. Nabu, dieu de la sagesse et de l'écriture. Dagon, dieu des récoltes et de la fertilité. Tant de dieux, de faux dieux. Tout leur système religieux reflétait une société violente dominée par la guerre, le pouvoir et la peur. Et pourtant, revirement radical. Toute la ville se détourne d'un panthéon puissant, bien ancré dans leur culture, pour se tourner vers le seul Dieu vivant, le Dieu de Jonas. Voilà ce qui rend leur repentance si remarquable. Mais Dieu n'en avait pas fini ici. Ah non, c'est au tour du roi de se mettre en action. On pourrait même lui donner un titre, revirement du roi. Le revirement du roi, oui. Le texte nous décrit une scène saisissante, signe de sa repentance. Le roi de Ninive apprit la nouvelle, se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur de la cendre. En un seul verset, incroyable, tout est dit, quoi. Le roi quitte son trône, symbole de son autorité et de sa gloire, pour aller s'asseoir sur de la cendre, signe d'humiliation, signe de fragilité. Oui, face à un Dieu si grand, si puissant, oui. Il retire son manteau royal, marque de puissance et de dignité, pour se revêtir d'un simple sac, habit de pauvreté et de jugement. Et de deuil, excusez-moi. Oui, jugement et deuil. Ce geste est extrêmement fort de la part de ce roi. Celui qui, dominé par la violence, reconnaît désormais son impuissance face au Dieu Tout-Puissant. Mais il ne s'arrête pas là, lui non plus, ce roi. Il publie un décret officiel au verset 7. Et il fit dans Ninive cette proclamation, par ordre du roi, de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs. Il crie à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes violents dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas, ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. C'est très fort ce décret-là. Et on sait que le peuple s'est déjà spontanément repenti déjà, même avant le décret du roi. Ils se sont déjà humiliés avant. Mais le roi, pourquoi il décrit ce décret-là? Il veut s'assurer qu'aucun de ses sujets, qu'aucune personne de Ninive n'échappe à cette repentance. Il a probablement compris quelque chose d'essentiel, de très spirituel et profond. Oui, le péché d'un seul peut contaminer tout le peuple entier et attirer le jugement sur la communauté entière. Ça vous parle, ça, hein, dans l'Ancien Testament. Dans Josué 7, par exemple. À cause du péché d'un seul homme, Achan, qui avait gardé les biens voués à l'interdit, eh ben, tout Israël a subi la défaite à Haï. Par la faute d'un seul, tous ont été touchés. Et Jésus nous parle de l'iniquité. C'est le péché dans toute sa profondeur qui affecte à la fois notre cœur, les actions que nous faisons, mais aussi notre environnement. Voilà l'iniquité. Voilà ce que le péché peut faire. L'iniquité n'est pas seulement un acte de désobéissance passif, c'est un choix conscient de faire le mal. Oui, commettre l'iniquité, c'est ça. Transgresser volontairement la volonté de Dieu. C'est pourquoi la repentance, mes frères et sœurs, il est important de mettre l'accent sur la repentance, parce que ce n'est pas une chose qui est superficielle, la repentance. Non, c'est une démarche qui est radicale et qui demande et qui exige des mesures claires, oui, devant Dieu. Face à l'urgence extrême du jugement divin, comme nous le voyons ici, le roi de Ninive prend des mesures, lui, radicales, et des mesures claires, visuelles, mais aussi auditives. Un jeûne total, sans se nourrir, ni boisson. Tous doivent être couverts d'un sac. Tous doivent crier à Dieu avec force pour renoncer à leur péché. C'est un acte de repentance, visuel et auditif. Une repentance authentique se voit. Elle est visible, une repentance authentique. Qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes violents dont leurs mains sont coupables. Je crois fermement, moi, que Dieu, oui, pardonne complètement le péché. Mais certains disent, ah, c'est trop facile, il suffit simplement de dire pardon et Dieu nous pardonne, mais je peux faire ce que je veux encore et dire, oh, pardonne-moi Dieu, j'ai peut-être fait ça, mais pardonne-moi, tu es un Dieu de miséricorde. Mais non, non. Quand Dieu pardonne, elle doit s'accompagner d'une démarche sincère et profonde de faire toujours le bien dans notre vie. Oui, le péché ne doit plus exister. Mais un autre élément aussi m'a frappé dans ce passage, c'est la rapidité et la facilité comment Ninive a pu venir à la repentance. Il n'y a pas de détails. Tout de suite, ils crurent. Et voilà. Et là, on ne voit aucune résistance face à Dieu. C'est incroyable. Et là où la logique humaine voit l'impossible, comme moi, quand j'ai lu ça la première fois, puis dis, ouf, c'est rapide, hein. Tout un peuple, un jour, plus d'un million de personnes, ça paraît fou. Eh bien, là où la logique humaine voit l'impossible, Dieu transforme l'impossible pour l'homme en un miracle possible pour lui. Oui. Tout le livre de Jonas, si nous regardons bien, est une succession de miracles. La tempête, miracle. La repentance des marins, miracle. Jonas englouti et recraché par le ventre du poisson 3 jours après, c'est un miracle. La repentance et l'obéissance du prophète au chapitre 2 et au chapitre 3 est encore un miracle. La repentance immédiate de Ninive, c'est un miracle encore. La repentance du roi, c'est un miracle. Chaque verset est un miracle. Mais au milieu de ces miracles, le texte nous surprend, vraiment, de surprise en surprise. Malgré leur sincérité, les Ninivites et le roi restent dans l'incertitude. C'est incroyable. Ils craignent que Dieu soit comme eux, c'est-à-dire inconstant, infidèle. Ils craignent que Dieu change d'avis et ne les pardonne plus. C'est ce que nous lisons au verset 9. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Leur repentance était pourtant réelle, en acte, auditive aussi, mais leur espérance reste trop fragile. Oui. Ils n'ont aucune garantie du pardon, seulement la crainte et l'espérance que Dieu se détournera de sa colère. Alors, mes frères et sœurs, là où Ninive n'ont qu'un peut-être, nous avons en Christ un c'est sûr. Un c'est sûr, oui. La croix de Jésus a dissipé tout doute quant à la repentance. Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Le roi de Ninive espérait un pardon. Nous, nous avons encore mieux. Nous avons une promesse. Une promesse. Après avoir vu le revirement du roi et de tout le peuple, une question reste en suspens. Comment Dieu va-t-il répondre? Et c'est ici, au dernier verset, que nous arrivons au cœur du chapitre. Après le revirement de Jonas, après le revirement de Ninive et son roi, voici maintenant le revirement de Dieu. Dieu vit ce qu'il faisait. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. La repentance de Ninive entraîne la suspension immédiate du jugement divin. Ce verset est extrêmement frappant aussi. Le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, omniprésent, regrette ici. Il regretta, Dieu regretta. Il revient sur son annonce de sa destruction pour Ninive. Alors peut-on dire ici que Dieu se repent? C'est la question qui m'a un peu perturbé en fait. Si oui, si je disais oui, alors serait-il juste de dire que Dieu est un Dieu instable, qui change ou qui est indécis? Ah là, ça remettra en doute toute la souveraineté de Dieu. La solution au repentir de Dieu se trouve donc, la réponse se trouve donc dans une distinction entre but, le but et les moyens. D'abord, Dieu est immuable dans son essence, c'est-à-dire qu'il ne change pas, ni dans sa sainteté, ni dans son amour, ni dans ses plans éternels. Dieu ne change pas. Malachi nous dit, dans chapitre 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. Dès l'époque de vos ancêtres, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas respectées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Jacques nous dit aussi, au chapitre 1, verset 16 à 17, « Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait vient d'en haut. Il descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Dieu ne change pas. Alors le mot « regretter » ici est en fait un langage humain pour décrire comment Dieu réagit face à la repentance de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui change, c'est notre position face à Dieu qui change tout. Pour mieux comprendre cela, il faut revenir au plan divin, initial de Dieu. On se réfère toujours à Genèse 3. Après la chute de l'homme, l'homme est séparé de Dieu par le péché, mais il promet un sauveur. Genèse 3, verset 15, « Le descendant de la femme écrasera la tête du serpent. » Tout le plan de Dieu depuis la chute est le même. Juger le péché, car sa sainteté l'exige. Sauver le pécheur, repentant, car sa grâce surabonde. Le jugement annoncé n'est donc pas une fatalité pour Ninive. Mais en réalité, oui, un appel au salut. Dieu ne change pas son projet de base pour l'homme. 1 Timothée nous dit au chapitre 2, verset 4, « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » Si l'homme se repent, alors Dieu retient son jugement. Si l'homme ne le fait pas, le jugement se réalise selon la parole annoncée. Donc Dieu ne change pas, il ne se repent pas. Il adapte simplement son itinéraire. Je prends l'image. Je dois aller ici et après aller chez Isidero pour aller prendre le barbecue. Le GPS me donne un itinéraire. Je prends la route, mais arrivé sur la route, oh, itinéraire, il y a eu un embouteillage, un accident, hop, on fait une déviation. Pour vous montrer qu'en fait, mon itinéraire, il est précis, il est là, le but, il est là. Mais le moyen d'y aller, ben parfois, nous permet de faire des fois, l'itinéraire nous fait des déviations. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, lui, ne change pas son plan, Dieu. Mais face à la résistance de l'homme, ben, il peut y avoir des petites déviations. Oui, il peut y avoir des petites déviations. Donc ce n'est pas Dieu qui change, c'est simplement son itinéraire. Mais c'est l'homme qui change de position face à Dieu. Et Dieu adapte tout simplement son nouvel itinéraire. Mais toujours pour le même but, le salut des hommes. L'action de Dieu dépend simultanément donc de ces principes-là et des réactions des hommes. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, oui, par la grâce de Dieu, nous pouvons le dire fort, nous ne sommes plus au temps de Ninive. Oui, aujourd'hui, tout ce processus de la restauration trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Oui, Jean 3,16, verset 18. « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Oui, Dieu, à chaque annonce du jugement dans l'Ancien Testament que nous pouvons voir, et à Ninive aussi, toute cette action, tout ce jugement-là pointe vers quelque chose en fait. Dieu pointe vers quelque chose, vers la croix. Là où la justice et la grâce de Dieu s'est manifestée. Oui. Jésus est donc de loin bien mieux qu'un simple messager. Il est la justice, la grâce du Dieu de Jonas. Réincarné. Incarné même. Oui. Alors nous avons dans notre conclusion. Dieu est tout puissant et rien n'est impossible pour lui. Sa parole et sa grâce peuvent provoquer des revirements les plus radicaux dans notre vie. Chaque revirement, comme celui de Jonas, comme celui du roi de Ninive et même de Dieu, est une preuve éclatante de toute sa grâce triomphante. Là où la justice humaine a échoué. Dieu veut transformer nos échecs en nouveaux points de départ, même si cela implique parfois de revenir toujours à la case départ. Oui. Alors aujourd'hui, je te pose cette question. Aujourd'hui, que choisis-tu? Continuer dans ton chemin chargé de péché ou de prendre cette nouvelle itinéraire que Dieu t'offre? Rester assis sur ton trône ou sur la cendre devant le roi des rois. Jacques nous dit au chapitre 4, verset 6, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Oui, Ninive avait 40 jours pour se repentir. Oui, et toi, combien de temps laisseras-tu passer avant qu'il ne soit trop tard? Repends-toi devant la croix. Saisiras-tu cet appel ce matin aussi, ce message, ce nouveau départ, toi aussi avec Dieu? Sache que Dieu est prêt à écrire une nouvelle page de ton histoire, comme il l'a fait ici avec Ninive. Amen.